Le journal vous est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Un coup de théâtre au Ségur de la Santé hier soir. Le nouveau Premier ministre Jean Castex s'est invité à une réunion décisive avec les syndicats, annonçant une rallonge de plus d'un milliard d'euros pour les salaires, précisant que les questions d'emploi seraient au menu des négociations. Ce geste a-t-il convaincu les syndicats de soignants? Réponse dans un instant.
À la une encore, le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif à la Covid-19.
Annonce hier au moment même où Donald Trump lançait officiellement la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump, qui poursuit sa politique de retrait systématique d'institutions et d'accords à 4 mois de la présidentielle américaine, en pleine flambée épidémique, le président des États-Unis reçoit par ailleurs son homologue mexicain aujourd'hui à la Maison-Blanche. Ils espéraient signer un accord cette nuit, c'est raté. Le gouvernement et les syndicats vont devoir reprendre cet après-midi les négociations au Ségur de la Santé. Car si le Premier ministre Jean Castex est arrivé hier avec 1 milliard d'euros supplémentaires pour les personnels non médicaux, infirmiers, aides-soignants, brancardiers administratifs, cette enveloppe totale de 7,5 milliards d'euros est encore insuffisante pour les syndicats. Audrey Morellato.
Cette rallonge, elle permet mathématiquement, c'est vrai, de passer le seuil des 300 euros de plus par mois et par soir. Mais ça, c'est de la pure théorie. Dans les faits, ça ne sera pas plus de 165 euros net, expliquent les syndicats, parce que les 7,5 milliards d'euros, ils servent aussi pour une petite partie à financer la formation, par exemple. Et puis, surtout, ils ne seront pas distribués de manière égale à tout le monde. L'objectif, c'est de revaloriser tout particulièrement les métiers en tension, ceux qui ont du mal à recruter. C'est le cas des infirmières, mais aussi des manipulateurs radio, par exemple. Eux bénéficieraient de hausses supplémentaires. Pour certains syndicats, il faudrait mettre 2 fois plus d'argent sur la table. Le gouvernement n'ira sans doute pas jusque-là cet après-midi avec une ultime réunion consacrée donc à tous ces salariés qui ne sont pas médecins. Mais il va falloir débloquer plus s'il veut obtenir un accord.
Plus de moyens, c'est effectivement ce que réclame Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT pour la santé.
Nous, on estime déjà à la base, pour arriver à des revalorisations salariales qui soient correctes, on devrait avoir 15 milliards d'euros sur la table. On est seulement à la moitié. Après, on peut arriver à discuter, avoir des discussions, de voir de quelle façon le gouvernement peut se comporter pour arriver à cheminer et surtout à répondre positivement aux revendications qu'on porte pour les salariés. Mais au-delà de ça, on n'est pas sur un gouvernement qui n'a pas réellement pris la conscience ni la mesure, en tout cas de l'espoir qu'il a pu susciter, notamment en voulant mettre en place ce Ségur. La déception peut l'être aussi de façon très forte. En tout cas, on a un ministre qui est à l'écoute. Donc on verra derrière si on arrive réellement à évoluer. Mais est-ce que le ministre à l'écoute suffit par rapport aux enveloppes budgétaires dont il dispose? Nous avons quelques doutes.
Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT pour la santé, il répondait à Thibaut Cavaillès. Un gouvernement de 600 jours et de combat, c'est la ligne fixée hier par Emmanuel Macron qui réunissait le premier conseil des ministres du gouvernement de Jean Castex, marqué par la promotion controversée de Gérald Darmanin à l'intérieur, on y reviendra dans le journal de 7h30, marqué aussi par la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la justice. Pour son premier déplacement en tant que garde des Sceaux, il s'est rendu à la prison de Fresnes hier pour soutenir les agents pénitentiaire et marquer son attention, je cite, aux conditions carcérales très dégradées en France. Éric Dupond-Moretti doit se rendre aujourd'hui au tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis, deuxième juridiction de France après Paris, tribunal emblématique des difficultés budgétaires que traverse la justice. Et les magistrats attendent de pied ferme leur nouveau ministre Gaël Joly.
Certes, Éric Dupond-Moretti a tenu un discours apaisant hier envers la magistrature, reconnaît Ludovic Fria, juge à Bobigny et représentant local de l'Union syndicale des magistrats. Mais comme bon nombre de ses confrères, il reste sur ses gardes.
Oui, c'est un premier pas. Il a dit « je serai le garde des Sceaux du dialogue ». On va le prendre au mot avec une certaine réserve par rapport à tout ce que maître Dupond-Moretti a pu montrer de sa personnalité toutes ces dernières années. On espère que monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, sera différent de maître Dupond-Moretti.
Sur la réserve également, Cyril Papon, greffier à Bobigny et secrétaire général de la CGT des chancelleries, service judiciaire. Il refuse de se laisser intoxiquer par de belles paroles. La priorité pour lui, ce sont des moyens supplémentaires.
De parler des conditions détestables dans lesquelles travaillent magistrats et fonctionnaires, on attend les actes. Ça fait des années que nos conditions de travail se détériorent. Donc voilà, donc nous on attend de voir ce qu'il est capable de faire pour le budget. Après, les grands discours et les belles paroles ne tombera pas dans le panneau.
Lui ne se privera pas d'aller interpeller en personne son nouveau garde des Sceaux dans les couloirs du tribunal tout à l'heure pour réclamer une revalorisation des salaires et des postes supplémentaires.
Gaëlle Joly. Les résultats du bac sont tombés. 91,5% des 740 000 candidats l'ont eu du premier coup, un record absolu pour cette session bouleversée par la crise du coronavirus. Il faut s'attendre à un taux de réussite final encore plus élevé après les oraux de rattrapage qui se tiennent jusqu'à vendredi.
France Culture 7h05, c'est l'un des dirigeants les plus corona-sceptiques au monde. Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé hier qu'il avait été testé positif à la Covid-19.
Dans un pays où plus d'1 600 000 personnes ont été contaminées, après toutes les provocations du président d'extrême droite, la population ne semble pas vraiment surprise par cette nouvelle. Le reportage de Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro.
Dans les rues du quartier de Catete, zone sud de Rio de Janeiro, les avis sont partagés. Certains trouvent que Jair Bolsonaro, qui a multiplié les sorties et s'est rendu à plusieurs manifestations, l'a bien cherché. Mais derrière son masque, qui ne cesse de lui glisser du nez, Cerly Teles ne veut pas accabler le président.
Je trouve qu'il a été très imprudent. Il est sorti plein de fois sans masque, mais je veux qu'il récupère au plus vite parce que c'est le président du Brésil et il doit continuer à l'être.
D'autres, comme Marcos, chauffeur de taxi dans l'attente du client, aimeraient bien que le président prenne conscience de la gravité de la situation, mais il est plutôt sceptique.
Lui, il va s'en sortir sans séquelles, parce qu'il ne va pas se soigner là où la majorité va, dans les hôpitaux publics. Il va dans les meilleurs hôpitaux. Mais il va vouloir montrer à la population qui a voté pour lui qu'il va être guéri grâce aux médicaments qu'il a distribués à tout le monde. Mais tout le monde sait que ça ne résout rien du tout.
Marcos fait référence à la chloroquine. C'est sur ce médicament que Jair Bolsonaro remise tout pour le moment. Aucune autre politique de grande ampleur n'a été mise en place car le chef d'État brésilien continue de s'opposer à toute mesure d'isolement et même à l'obligation du port du masque.
Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour France Culture. Comment les journaux brésiliens réagissent-ils à cette contamination de leur président, entre ceux qui lui souhaitent un prompt rétablissement en espérant que cela mettra du plomb dans la cervelle de Jair Bolsonaro et ceux qui souhaitent littéralement la mort du chef de l'État? Ce sera l'objet de la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Les États-Unis, eux, ont battu un nouveau record de contamination en 24 heures, 60 000 nouvelles infections recensées par l'université Johns Hopkins. Le jour même où Donald Trump a informé officiellement l'ONU de son retrait de l'OMS. Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
En avril, Donald Trump tempêtait contre l'OMS, lui reprochant de ne pas avoir vu venir cette épidémie de coronavirus et surtout d'être à ses yeux beaucoup trop proche du pouvoir chinois. Fin mai, le président américain gelait les fonds versés par son pays à l'Organisation mondiale de la santé et promettait un examen approfondi du fonctionnement de l'agence onusienne. Cette fois, Washington officialise le divorce par une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, et ce au moment où, aux États-Unis, l'épidémie paraît hors de contrôle avec plus de 130 000 morts et bientôt 3 millions de personnes contaminées. Le retrait américain sera officiel en juillet 2021. Pour Trump, c'est un coup politique, lui qui aime taper sur ses organisations multilatérales. Pour l'OMS, c'est un coup très dur. Avec 400 millions de dollars versés chaque année, les États-Unis sont les premiers contributeurs au budget de l'organisation. Hier soir, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, promettait que s'il est élu, dès le premier jour de sa présidence, il réintégrerait l'OMS et que les États-Unis reprendraient leur rôle de leader sur la scène mondiale.
Et à 4 mois de la présidentielle américaine, Donald Trump reçoit aujourd'hui son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador à la Maison-Blanche, ce qui devait être une rencontre trilatérale avec le Canada pour célébrer l'entrée en vigueur du nouveau traité de libre-échange nord-américain, sera finalement un tête-à-tête car le premier ministre canadien Justin Trudeau a décliné l'invitation, invoquant les restrictions sanitaires en vigueur dans son pays. Au Mexique, on craint que cette rencontre soit surtout l'occasion pour Donald Trump d'instrumentaliser la relation entre les deux pays à des fins électorales à Lixardi.
C'est donc à Donald Trump que López Obrador consacre son premier voyage à l'étranger après 1 an et demi au pouvoir. Mais à 4 mois des élections américaines, la visite pourrait s'avérer contre-productive pour le président mexicain, avertit Rafael Fernandez du Centre d'études États-Unis-Mexique.
Dans ce genre de rencontres, on résout généralement des problèmes ou on annonce de nouvelles initiatives. Ici, ce n'est pas le cas, car Trump est focalisé sur la présidentielle. Il est radioactif et peut dire une horreur à tout moment. Avec cette visite, López Obrador a peu à gagner et beaucoup à perdre.
Au Mexique, l'humiliation de la dernière visite de Trump est encore cuisante. En 2016, le candidat républicain avait été reçu avec tous les honneurs à Mexico, alors qu'il faisait campagne sur le fait que le Mexique paierait pour son fameux mur à la frontière. Mais le président mexicain est persuadé qu'il peut mater son homologue américain en ignorant ses provocations.
Donald Trump est plus respectueux du Mexique qu'avant. Je ne suis pas un traître à la patrie. Je pense qu'il est possible d'entretenir de bonnes relations avec les États-Unis tout en conservant notre dignité.
Une stratégie pragmatique, mais qui a coûté cher au Mexique. L'an dernier, sous la menace de lourdes taxes douanières, le pays a déployé ses soldats pour bloquer les flux migratoires, agissant comme un mur virtuel pour le compte des États-Unis.
Alix Hardy à Mexico pour France Culture. Le temps de ce mercredi 8 juillet, mitigé dans le nord de l'Hexagone, ensoleillé et chaud au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 24 et 28 degrés dans la moitié nord du pays, 28 à 35 au sud.